bienvenue à cette édition de Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis Charles Leblanc à l'animation, comme à l'habitude, en compagnie d'Emery Riendo et Victor Marchand. Comment ça va les gars?
Ça va très bien, merci. Comment ça va toi Charles?
Ça va super bien. Et toi Victor?
Ça va extrêmement bien.
Tant mieux, pas trop gelé de la game de l'Impact qu'on est allé voir en fin de semaine?
Non, c'est correct. On a eu le temps de dégeler d'ici là, puis gelé dans le sens froid. Là.
Oui,
on va le mettre clair. Là,
tu fais bien de le préciser.
C'est important.
Sans plus attendre, Emery, je te laisse présenter notre invité de la semaine.
Oui, alors aujourd'hui on reçoit l'attaquant de l'équipe masculine de volleyball du Rouge et Or. Il était sur l'équipe d'étoiles des recrues U Sports en 2019-2020, sur la première équipe d'étoiles U Sports en 2022-2023. Cette année, il a participé au championnat canadien. Alors, vous l'aurez probablement deviné, on a aujourd'hui avec nous en studio Nicolas Fortin. Comment ça va, Nico?
Ça va bien. Merci de l'invitation, les boys. Ça va être le fun.
Yes, certainement. Alors, rapidement, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire c'est quoi ton domaine d'études?
Rapidement, moi, je suis entré à l'Uni. J'ai fait un bac en microbiologie. J'ai fait en 3 ans. Par la suite, ben, normalement, il me reste encore des années d'éligibilité. Pardon. Fait que là, j'ai commencé à faire une maîtrise en microbiologie, immunologie. Plus précisément, j'ai étudié les mécanismes de réplication de l'influenza, les risques de la grippe. Là, par la suite, après avoir fini ça, ben là, présentement, je suis en train de faire un MBA en gestion pharmaceutique pour passer le temps.
Puis tu veux faire quoi avec ça? Dans le sens que, tu sais, un MBA, j'allais dire, c'est loin, c'est pas si loin que ça, mais tu sais, c'est pas exactement dans la même veine, en tout cas, que la microbiologie. As-tu de quoi en tête qui te vient, que tu dis, OK, c'est pour ça que je fais ça?
Là, présentement, dans le fond, avec mon travail que je vais faire, c'est vraiment plus de la science fondamentale en rapport avec la microbio. Mais au cours de mon parcours à l'université, j'ai vraiment comme développé une petite passion pour l'administration, la finance, puis là, toutes les affaires plus de nombres et de chiffres là, quantitatifs. Fait que c'est pour ça que je me suis dit que tant qu'à aimer l'école puis être dedans, ben j'allais faire un MBA tout de suite pour possiblement être comme gestionnaire ou chef d'équipe dans une biotech plus tard.
Puis là, on peut passer volleyball. Mais toi, c'est, dans le fond, on te connaît pour ce que tu as fait à Laval, mais ça fait combien de temps que tu joues? Est-ce que tu as joué? Tu joues depuis que tu es jeune? Tu joues depuis que tu es au cégep? C'est quand que c'est venu cette façon-là?
Moi, j'ai commencé à jouer au hockey, comme pas mal tous les petits gars au Québec. Puis là, une année, j'ai comme arrêté de j'aimais plus ça. Puis là, mon père, qui est un fier prof d'éducation physique, puis il coach de volleyball. Tu veux plus faire de hockey, mais tu vas trouver de quoi faire. C'est pour que tu vas rien faire chez nous à la maison. Le choix naturel, ça a été le volley à peu près en 5e année. J'ai commencé ça plus sérieusement avec justement William Bergeron, qui est le libéro de l'équipe. Depuis ce temps-là, on se suit depuis 15 ans à peu près. Là, on a fait toutes les équipes scolaires, ski civil au secondaire ensemble. On a joué 3 ans ensemble au Titan Limoilou. On était vraiment bons. On a fait plusieurs médailles aux Canadiens, à Limoilou. Ouais. Donc, notre 2e année, une médaille d'or. Okay. C'était vraiment l'apogée de ma carrière collégiale.
Puis qu'est-ce qui fait que, justement, 5e année, c'est d'avoir quoi, autour de 11 ans peut-être, t'es tombé en amour avec ce sport-là?
Encore sûrement l'influence involontaire de mon père. Coach de volleyball, ça faisait déjà plus que 20 ans. Fait que j'ai tout le temps baigné dans ça, le ballon. Puis
j'imagine qu'il t'a aidé au cours de ton parcours. Là.
Ouais, consciemment, là, quand j'étais petit, il me faisait faire des petits gauches, droite gauche. Il préparait le terrain de son jeune âge.
Ça a porté fruit, en tout cas.
Ouais, ça a marché.
Ouais. Puis tu parles de l'influence de ton père, on peut aller plus là-dedans, mais tu sais, est-ce que tu sens, justement, avec ta carrière universitaire, c'est sûr qu'il est fier de toi, mais tu sais, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui l'allume, justement, de voir que tu réussis, que tu t'avances là-dedans? J'imagine que lui aussi est là, toutes les matchs, mais est-ce que c'est. Tu sens que cette espèce de roue-là qui tourne, de lui qui a déjà joué, je pense aussi, là, de voir son fils aller là, est-ce que tu penses que, justement, ça l'allume de voir à quel point tu réussis avec l'Oja?
Oui, c'est sûr, ça l'allume, puis il est fier. Là, c'est sûr qu'il, d'après moi, il dit moins souvent qu'il voudrait, là, mais on est un papa très fier. Le meilleur exemple, c'est qu'il est là à chaque game, il est là à chaque événement, il va toujours se pointer avec maman et tout. Même s'il vient de la Malbaie, c'est quand même un petit 2 heures de route. À chaque match, à chaque semaine, ils ont la possibilité, ils vont faire l'aller-retour.
Est-ce que c'était lui qui t'entraînait quand t'étais jeune? Parce que le volley masculin, malgré tout, c'est pas partout qu'il y en a là, au niveau plus jeune, c'est beaucoup concentré féminin, mais est-ce que t'étais quand même chanceux un peu que dans ton coin, il y a des équipes qui te permettent de jouer?
Ouais, mais mon père, justement, il a coaché, avant de commencer à me coacher, ça faisait 15-20 ans qu'il coachait des filles. Puis là, avant ça, il avait coaché la batch avant nous autres, avant moi puis William, c'était Pierre-Alexis Lapointe, un autre qui vient de la Malbaie puis qui a joué à Laval. Ouais. Fait qu'on était vraiment juste la deuxième petite gang de gars. Puis justement, je pense que mon père, les coachait les gars, il a surtout son fils. Les niveaux d'exigence, il était quand même assez élevé. Puis c'est sûr que ça, c'est un des éléments qui a fait en sorte que puis que tu es en mesure de me démarquer plus tard après ça.
Puis il t'a coaché combien de temps au total?
Il m'a coaché de cinquième année jusqu'à secondaire 4. Parce qu'en secondaire 5, moi puis Will, on est parti jouer pour Cardinal-le-Roi pour comme pratiquer en même temps avec le Cégep Limoilou.
Ouais.
Fait que là, c'est ça, pendant 6 ans.
Puis là, tu savais déjà, j'imagine que tu t'enlignais pour jouer à Limoilou.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, Cardinal-le-Roi, c'est le pré-recrutement de, de Rock Picard, le coach de, des Titans de Limoilou. Fait que là,
ça a été compliqué de quitter chez toi en secondaire 4 pour t'amener à Québec?
Personnellement, j'ai pas trouvé ça tant pire. Mais quand tu te compares à toutes les autres, les personnes, mettons, qui restent chez leurs parents encore une autre année, ou ben même le cégep, là, c'est vraiment aidant à avoir toute ta bouffe, mettons, ton lavage, toutes les petites affaires que tu penses pas, mais c'est vraiment pratique avoir ça quand tu as 16 ans par rapport à quand tu vas venir à 19, 20, 21 ans. Là, c'est quand même un bon gap.
Est-ce que tu avais une colocation avec William ou t'étais tout seul de ton bord?
Non, lui, Will, il est allé en appart avec son frère, son plus grand frère qui était justement déjà à l'Uni. Mais moi, au début, j'ai commencé, j'étais en appart tout seul avec un autre gars justement qui était en secondaire 5. Deux grands garçons sur l'air 5 en appart tout seul. C'était quand même assez drôle.
Ouais, ça doit être une expérience quand même.
Ouais, on
t'as a pas pris le choix de développer ton autonomie super rapidement. Là. Ouais. C'est fou quand même.
Ouais.
Après ça, c'était-tu la suite logique d'aller à l'Université Laval ou t'as pensé un peu aller ailleurs?
Sur le coup, au recrutement à ma dernière année du cégep, c'est sûr que tu regardes toutes tes options, mais on dirait que c'est tout à fait à peu près 90% sûr que si t'es passé dans les titres de Limoilou, ben, tu vas aller à l'Université Laval. C'est comme. Le club c'est vraiment comme une échelle.
Il y a un peu un pipeline, le Cardinal-le-Roi, Limoilou, Laval.
C'est vraiment comme tout écrit, mais il n'y a rien qui t'oblige jamais. Mais on dirait que tu connais tous les coachs, tu as des amis, puis les plus vieux qui t'ont joué au cégep, là, sont rendus à Laval. Mais là, tu vas aller jouer avec tes plus vieux que tu connais et que tu aimes bien déjà.
Puis,
c'est la suite logique. Là.
Est-ce que justement le fait que vous étiez trois, ben, en tout cas, il y a trois gars en tout cas, qui ont fini votre. Ben, vous avez fini votre parcours à trois en ayant été au Titan Limoilou, là. Jonathan, toi et Will. Est-ce que justement ça a eu un impact? Est-ce que le fait justement d'avoir pu vivre les championnats canadiens en 2019 à Québec, d'avoir vu, est-ce que c'est quelque chose qui a eu un impact? Est-ce que ce genre d'élément-là, d'avoir justement des gars qui te suivent, tu des trucs qui disent, hey, d'avoir des amis qui vont être avec moi, ça donne un peu la chance de dire, hey, on va pouvoir vivre de quoi de spécial ensemble ou ça passe même pas dans ta tête?
Non, c'est ça, ça rentre en cause du tout. Là. C'est comme Will, présentement, ça fait comme 15 ans qu'on joue ensemble. Joe, ça faisait 8.
Ouais.
Puis là, à ce moment-là, t'es comme, oui, j'ai peut-être des meilleures opportunités, mais ça, sur le coup, tu le sais pas vraiment.
Ouais.
Mais c'est ça que tu vas-tu, entre guillemets, laisser des bons chums que tu vois à chaque jour depuis 10 ans. C'est comme ça. Tu t'attaches vraiment à ces gars-là et tout. Là.
Il y a aussi une cohésion qui se crée avec autant d'années à jouer ensemble. J'imagine que sur le terrain, vous devez pratiquement savoir où est-ce que vous allez être. Parce qu'avec l'habitude, est-ce que ça se passe un peu comme
en plein ça? C'est comme dans plein d'autres sports. Ouais. Ouais. C'est tout, la manière de se parler et d'être. Là. Souvent, quand il y a des nouveaux joueurs, puis c'est des nouveaux éléments, des nouvelles façons d'interagir avec ces gens-là, ben, quand ça fait 10 ans que tu connais le gars, tu sais comment il parler, tu sais comment pouvoir l'influencer de la bonne façon. C'est vraiment plus facile.
Fait que c'était vraiment naturel pour toi d'aller avec le Rouge et Or.
À Laval, les trois ensemble, c'était...
Mais est-ce que vous avez reçu, est-ce que toi, t'as reçu des offres de d'autres universités ou est-ce que t'en as considéré d'autres?
J'ai considéré tout. J'avais considéré Sherbrooke puis Montréal. Là, personnellement, Montréal, c'était pas mes préférés. pas parce qu'ils sont bleus, là, mais juste parce que Montréal, la ville puis tout ça, c'était vraiment moins mon vibe.
Okay.
Mais Sherbrooke, tout, j'aurais aimé ça, mais il y avait déjà des très bons joueurs à Sherbrooke.
Okay.
Fait qu'en tant que tel, c'est peut-être la voie de la facilité, entre guillemets. J'étais comme presque assuré d'avoir un poste déjà en partant à Laval. Fait que ça a été naturel.
Puis le sentais sur ton X, là.
Ouais.
Excellent.
Quand t'arrives à Laval, tu sais, c'est Gino qui est l'entraîneur du début à la fin, là, donc que t'as eu comme entraîneur toutes ces années-là. Mais tu sais, c'est quand même un gars qui a une expérience, qui est vu comme par plusieurs, comme peut-être le plus grand joueur à être passé par Laval, qui a une carrière de fou après ça. Est-ce que d'avoir un entraîneur comme ça, qui a cette expérience-là, mais qui est aussi, justement, qui a le vécu, au-delà d'avoir l'expérience comme coach, qui a le vécu d'avoir joué à même place que toi, là, puis à même place que plein d'autres joueurs, puis d'avoir vécu l'expérience professionnelle, est-ce que c'est quelque chose justement qui vous motivait? Est-ce que c'est quelque chose qui vous amenait à être meilleur? T'sais, est-ce qu'il y a une écoute qui est plus grande aux pratiques à cause de ça? Est-ce qu'il y a un respect qui est plus grand avec ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous?
Ouais, c'est sûr que quand t'arrives puis tu rencontres Gino Brousseau pour les premières fois, là, c'est dur de pas respecter le gars. Là.
Ouais, ouais.
Ça entend, c'est comme une légende. C'est une légende au Québec, au Canada, puis en France, puis pendant partout ce qui est passé. Là.
Ouais.
C'est qu'au début, c'est vraiment intimidant, puis t'es comme un peu gêné. Puis là, Gino, il est vraiment comme. Moi, je pourrais dire ça. C'est vraiment un chummy, là.
Ouais.
Il est vraiment fun et agréable comme personne. Fait que ça devient naturel, puis ça devient ton ami, puis tu parles de... Son bureau est tout le temps ouvert.
Ouais,
tu peux y aller, il parle n'importe quoi, puis il va tout le temps trouver une manière de te réconforter. Ou...
Ouais.
Non, mais...
T'as-tu... Si, mettons, tout au long de ta carrière là, avec le Rouge et Or, t'as-tu des moments préférés qui t'ont marqué?
Des moments préférés? Des moments préférés...
Que ce soit des championnats canadiens, championnats québécois...
Des moments préférés... Ben oui, c'est pas nécessairement par rapport au sport, mais moi, les moments préférés, on dirait que c'est tout le temps les... Quand tu pars en compétition, mettons, les... C'est tout le processus de partir en compétition. Ouais. Tu pars, maintenant tu vas au Nouveau-Brunswick, tu fais 10 heures de bus. Ouais. Là, t'es 10 heures de bus avec tes chums. Là, après ça, tu vas à l'hôtel. Mais là, t'es à l'hôtel, là, c'est toute la nuit avec tes chums. Ouais. Là, tu te réveilles, puis si tu veux, tu vois juste la même gang de gars. Puis tu travailles autant fort, tu déconnes autant fort avec ta gang de gars tout le temps. C'est vraiment. Moi, tu vois, ce que j'aimais vraiment le plus de mon sport d'équipe, c'était ça. Ouais. Ben, tripper avec ta gang de gars.
Ouais, tout mais c'est un peu ce que Jean-Simon Dégagné, qui était ici la semaine dernière, nous disait. Lui, il est en athlétisme. C'est un sport individuel, mais de s'entraîner avec le Rouge et Or, tu es dans une atmosphère d'équipe, tu t'entraînes, après ça, tu vas prendre une bière le vendredi soir. J'imagine que le sport universitaire peut t'amener quelque chose comme ça, justement, de créer un groupe là, où est-ce que c'est serré.
Ouais, il y aura des amis, puis justement, tu t'entraînes en muscu ensemble, là, tout le monde se pousse ensemble, puis même chose pour les entraînements, puis après, ben tu vas pas seul chez vous dans ton coin. Tu sais, quand tu prends une petite bière, ben, tu prends une bière avec les gars de l'équipe. Donc, on dirait que ça peut être facile de cette année des fois, mais en tout cas, moi, c'est bien rare que je me tente de voir le monde.
Ouais, je comprends. Puis, tu sais, justement, tu te permets d'aller prendre une petite bière avec tes chums de volleyball, mais est-ce qu'on peut se le permettre pendant la saison ou c'est vraiment la pré-saison? Comment ça se passe? C'est quoi le rush d'une saison de volleyball?
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des moments qui sont vraiment plus opportuns, comme je dirais, mettons, en début de saison. Là, on fait notre petite intégration des recrues pour les déjeuner puis qui nous connaissent. Puis là, par la suite, avant que vraiment les matchs commencent, ben là, c'est pas trop grave de faire des petites soirées puis d'avoir du plaisir. Mais je dirais que le vrai gros gap, là, c'est dès que tu passes après Noël, la deuxième moitié de saison, puis là, c'est, après ça, c'est le provincial, puis possiblement le Canadien qui découle, là, c'est comme l'alcool, puis la nutrition, tout, c'est vraiment là, c'est comme un contrat d'équipe que c'est comme normal qu'il faut que tu sois plus à coche dans ce moment-là pour être au maximum de ta performance.
Ouais, puis ton corps commence à être magané un peu, puis l'alcool, on le sait, c'est pas idéal pour la récupération.
C'est
donc
le meilleur médicament, mettons.
Non, c'est ça. Fait que j'imagine que en début de saison, ça a nécessairement tout le temps du gros party. C'est peut-être un peu moins grave, un peu moins d'impact sur le corps, là, mais. Puis je me demandais aussi, vous êtes tous dans la même réalité d'athlète étudiant. Toi, t'étais à la maîtrise. C'était comment gérer l'école et le sport?
Pour être depuis le cégep, là, on dirait que c'est tout le temps le même principe un peu. Là. Tu fais ton sport, tu t'entraînes physiquement, tu t'entraînes en pratique, puis dès que tu as du temps de libre, ben c'est soit tu étudies ou ben, soit comme tu passes du temps avec tes amis et tes chums. Fait que, on est comme habitué, je dirais, on est comme programmé à rien faire d'autre dans notre vie. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été trop difficile de juste rien faire de ma vie à part genre étudier et être un athlète. Mais je sais que pour d'autres, c'est vraiment plus difficile. Ça prend des moments pour décrocher et tout, mais personnellement, en tout cas, ça a quand même été naturel.
Puis justement, ta vie sociale, tu la vis avec ton sport, fait qu'à ce niveau-là, j'imagine que ça doit être plus facile.
Ouais, c'est ça, t'es jamais vraiment tout seul. Fait que d'abord, justement, tu te sens pas tout seul, c'est pas compliqué, mais des fois, t'as des petites fins de semaine, fait que là, tu peux prendre le temps d'aller voir tes parents et décompresser, même si ça arrive pas souvent, mais parfois, ça arrive. Puis c'est juste de bien arranger tes affaires pour être capable d'en profiter.
Puis tu sais, on en a parlé rapidement, là, la saison de volleyball, quand ça part, puis les matchs s'enchaînent. Après ça, c'est les championnats provinciaux, les Canadiens. Il y a des risques de blessures qui sont assez élevés en volleyball. Là, c'est un sport qui est dur sur le corps. On en a parlé un peu avant de rentrer en onde. Peux-tu nous parler des blessures que tu as eues puis comment tu as fait pour passer au travers pendant ta carrière?
Mais évidemment, au volleyball, les blessures classiques, je dirais que c'est se virer une cheville. Tout le monde qui a joué au volleyball, c'est sûr que c'est déjà arrivé. J'en ai eu quelques-unes quand j'étais plus jeune. Sinon, les commos, on entend beaucoup parler des commotions au volleyball. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai été chanceux.
Mais Sam, je connais plein de monde qui ont reçu un smash sur la tête puis qui ont fini par avoir une commo. Mais Sam, c'est une expérience universelle pour ceux qui font des ligues intra ou des affaires comme ça. Là.
Ouais. En plus, on dirait que quand tu fais une commotion une fois, là, t'es pas chanceux, là, ça va t'arriver 4, 5, 6, 7 fois. Là. On dirait qu'après, c'est un aimant sur ta face pour les ballons. Là. C'est trop drôle. Mais sinon, les autres sortes de blessures, on dirait que c'est beaucoup des blessures d'usure. Comme mettons des os good. C'est moi que les coureurs, les joueurs de soccer puis tout ça, ils connaissent ça. J'ai des os good aux deux genoux. C'est sûr que ça va. Plus tu fais du volume, bien, plus tu vas avoir mal à tes genoux. Puis ça, c'est pas le fun. Sinon, beaucoup de claquages, beaucoup de douleurs, d'usures dans les épaules.
C'était ton cas, justement?
Oui, justement, j'ai fait opérer au labrum l'été passé pour être en mesure, justement, de frapper des ballons. Fait que là, après l'opération, ben là, tu tombes ces médicaments après ça pour le restant de l'année pour être capable de performer. Puis tant que ça paraît pas sur le terrain, c'est correct. Mais...
Ouais, j'étais un peu curieux, c'est quoi le. Parce que, comme on en parlait avant d'entrer en onde, là, c'est une opération que je vais peut-être avoir. Qui va peut-être être nécessaire dans mon cas. C'est quoi la période. Ça t'a pris combien de temps être capable de jouer pour être capable de jouer au volley?
Vite de même. Je dirais que j'ai pris toutes mes fonctions avec mon bras, ça a dû prendre 2 mois, à peu près. Mais avec vraiment de la bonne physio intensive à chaque jour. Puis, mais depuis de 0 à 2 mois, puis après ça, de. On a rejeté un autre 4 mois avant de commencer vraiment à frapper des ballons à 100%. Okay. Ça a été un bon 6 mois. Tout l'été, sans toucher de ballon, puis repos.
Ça peut être facile, ce côté mental.
Ouais, ça, tu peux même pas jouer au beach. Il faut que tu sois tranquille, puis tu te disciplines pour pas te scraper.
Ah ouais.
Mais rendu là, t'as pas le choix, puis tu fais ce que les médecins disent.
Ça t'encourage-tu, ça, Charles?
Ben, 6 mois, écoute, ça fait quasiment 2 ans que j'ai ça. Fait que 6 mois, je le prendrais, mais c'est sûr que, comme tu dis, ça.
Évidemment, ça vaut vraiment la peine, là, le comparativement. Avant, okay. C'est ça, j'étais, comme je vous disais, j'étais pas capable de me laver les cheveux dans la douche, puis je pouvais pas lever mon épaule pantoute.
Puis ça, c'était avant cette saison aussi.
Ouais, ben à la fin de l'année passée, justement, là, c'était.
Puis cette saison, dans le fond, tu étais sur les médicaments pour être capable de gérer la douleur.
Ouais, ben à la fin aussi, mais au moins cette année-là, c'était vraiment moins pire. C'était moins intense, là.
OK.
Ouais.
Et c'est ça, là, un impact quand même sur le. Tu penses, les résultats que tu as eus et les performances que tu donnais?
Eh, vite de même, je dirais. Probablement, mais. Inconsciemment, mais. Sur le coup, moi, je pense pas que c'est vraiment ça a impacté, mais c'est quand même des bons médicaments que je prenais. Là. Ça, je sentais plus grand chose.
Puis quand l'adrénaline embarque aussi dans un match, j'imagine que tu
penses juste l'adrénaline, comme tu dis tout de suite, là, c'est vraiment puissant. Là.
Mm-hmm. Mm. Puis, tu sais, avec la saison que tu as eue, au-delà des statistiques phénoménales que tu as eues, ça a été une grosse saison pour toi parce que tu as vu beaucoup de temps de jeu, puis on t'a vu sur le terrain, et, je veux dire, être un élément important à tout moment. Puis, on peut revenir un peu sur cette saison-là. Là, justement, c'est une bonne saison pour vous. Je veux dire, finir deuxième de la RSEQ derrière une équipe quand même solide avec Sherbrooke.
Qui ont une saison parfaite.
Ouais, exact. Comment,
la finale,
comment vous l'avez vécu cette saison-là? Est-ce que, tu sais, sans rentrer dans les gros détails, mais comment vous avez vu? Est-ce que comment tu décrirais, mettons, cette saison-là avec le Rougeard cette année?
Je pense qu'on a atteint plusieurs des objectifs qu'on s'était donnés. Comme par exemple, le premier objectif c'était d'avoir l'avantage du terrain pour le provincial. Puis que là, tiens, on jouait contre Nouveau-Brunswick, c'était le fun, on jouait tous nos matchs à la maison.
Ouais.
C'était quand même vraiment pratique. Puis après ça, ben c'est sûr que notre objectif ça a tout a été d'essayer de battre Sherbrooke. Puis même si ça a fait mal au cœur, ben en perdant ce final-là, ben les deux matchs on a passé extrêmement proches.
Ça passe proche, vraiment.
D'arracher la victoire au Vert-et-Or.
Ouais.
Ce qui est rendu là à la fin de l'histoire, ben, il est arrivé ce qui est arrivé, puis c'était choquant, mais au moins, on a vraiment tout donné à ce moment-là.
J'imagine que ça a quand même, t'sais, malgré que c'est crève-cœur, ça doit être quand même bon pour le moral. Tu donnes 2 gros matchs à Sherbrooke au championnat québécois. J'imagine que ça donne la confiance un peu pour le championnat canadien.
Ouais, c'est en plein ça qu'on se disait. Là. En tout cas, on a à côté de Sherbrooke 2 fois, on aurait pu les battre, mais ça te met en une très belle confiance pour le Canadien, effectivement.
C'est juste pour mettre ça au clair pour les auditeurs auditrices qui sont peut-être pas au courant là, dans le fond. Mais le Rougeard a terminé 2e à Sherbrooke, comme quoi on le dit. Mais ça a été les mêmes résultats lors du championnat provincial que Sherbrooke a remporté. Laval 2e. Et puis, ça vous a permis d'avoir le ticket vers le championnat canadien. Peux-tu nous parler justement de ton parcours au Canadien? Tu as eu certains enjeux quand même, mauvaises surprises, on peut dire ça comme ça. Peux-tu nous en parler?
Ouais, personnellement, moi, ça n'a pas bien été. Là. C'était vraiment crève-cœur comme fin de carrière. C'est ça, dans le fond, on est parti le mardi matin. Puis là, à l'hôtel, le mardi soir, là, je commençais à mal filer. Puis là, je suis réveillé dans la nuit. Puis là, gastro. Puis là, justement, tu manges pas pendant. Là, on jouait le jeudi, mais. On jouait le premier game jeudi midi. Fait que là, tu sais, mercredi, tu commences à arrêter de vomir. Puis là, le jeudi matin, mais j'avais comme. Ça faisait plus que 24 heures que j'avais pas mangé, pas bu, déshydraté. J'étais en petite boule dans mon lit. Je me suis pointé au match. Puis là, 1 heure avant le match, Gino, il m'a rencontré avec les coachs. Puis il me dit, là, Nick, on te fera pas jouer. Puis là, mais moi, je voulais vraiment jouer. Mais là, ils m'ont empêché. C'est sûr qu'avoir joué, j'aurais probablement pas fait grand chose de bon. Là.
Ouais.
Mais ouais, ils m'ont comme dit que c'était pour pas infecter les autres. Puis là, être sûr d'être éthique. Mais...
ça doit tellement être crève-cœur, justement. Tu sais, j'imagine le moment que tu attends le plus de ta carrière de te rendre au championnat canadien, d'arriver là, d'avoir un très gros rôle dans l'équipe, d'être vraiment un des piliers, là, je pense qu'on peut le dire, puis de devoir s'absenter, puis pas pour une blessure, tu sais, vraiment pour un virus bête que tu as attrapé quelques jours avant. Je dois. Je comprends pas comment. Parce que ça a été terrible, j'ai de la misère à me l'imaginer personnellement. Là. Mais après ça, tu as réussi à jouer le deuxième et le troisième match, même si. Parce que vous avez perdu le premier, dans le fond, contre l'Alberta 3-1. Fait que ça a fait en sorte que vous étiez éliminé dès le premier match, mais quand même, vous avez décidé de. Tu sais, on continue le tournoi, et puis le but, j'imagine, c'est de terminer dans la meilleure position possible. Ça a été comment ta récupération pour arriver au deuxième match? Est-ce que tu étais prêt? Est-ce que tu avais eu le temps de récupérer?
Non, pourtant, j'étais quand même vraiment moyen. Là. J'ai eu le temps de manger comme un petit peu d'œuf après ça pour le vendredi.
Pas plus?
Ouais, ça allait vraiment pas beaucoup. Là. Fait que là, pendant le match, j'ai essayé de pratiquer vendredi. Puis là, on a un médecin, un ami à Gino qui est un orthopédiste à la retraite. Fait que là, lui, il est vraiment bon pour comme gérer notre nutrition, puis les médicaments, puis tout. Il est vraiment sa coche. Fait que là, il m'a fait un mélange de. D'eau avec des acides aminés puis full de sucre. Là. Okay. Ça donne un petit bout, ça donne une chance. Fait que là, on la pratique le vendredi, on est allé de même, puis ça a été assez pour sortir le samedi puis gagner le match. Ça a été parfait. Ouais.
Ça a été vous avez gagné le deuxième match, puis vous êtes après ça incliné durant le troisième match. Est-ce que, quand même, grosso modo, tu es satisfait de ta performance à toi, mais aussi de celle de toute l'équipe lors du Canadien?
Sûr que personnellement, j'avais plus de grosses attentes après une belle gastro. Quand on prend ça en compte, ben je me dis que personnellement j'aurais pas pu faire plus. Fait que je me sens comme pas mal par rapport à ça, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça être en forme puis vraiment essayer de donner ton maximum.
Malgré tout, le premier match, là, je l'ai regardé, c'est contre Alberta, si je me trompe pas, qui ont gagné le tournoi. T'sais, les deux premiers sets sont extrêmement serrés. Le gars qui te remplaçait, là, c'était une recrue, il a bien joué, mais t'es un des meilleurs attaquants au Canada. Je pense que c'est plate à dire, mais je pense que si t'es là, vous avez peut-être une chance de les battre. Après ça, c'est peut-être une victoire demi-finale, peut-être un match revanche contre Sherbrooke. Là, on sait jamais ce qui aurait pu arriver, mais ça doit être assez crève-cœur.
Ouais, j'étais en muscu justement tantôt avec Jonathan Girard, puis c'est exactement ça qu'on a parlé. Là. T'aurais pu être en forme, puis jouer ce match-là, on s'est pas rendu là ce qui aurait pu arriver. Là.
Rendu en paix avec ça ou tu l'as encore sur le cœur?
Ouais, je l'ai un petit peu sur le cœur, inconsciemment, mais c'est quand j'expose les faits puis je check ça dans ma tête, j'aurais pas.
C'est comprenable.
Ouais, j'aurais pas rien faire de plus. Mais pour parler au niveau de l'équipe, justement, moi j'étais là, justement dans les astrales. J'étais malade, mais j'étais dans les astrales pareil, puis j'encourageais l'équipe contre les Golden Bears. Puis on était surpris. Je suis comme, Caroline, on gagne le premier set. Moi, je suis malade, mais là, je suis plus malade. Là, je suis énergique, là, je suis craqué. Mais après ça, tu sais, les Golden Bears, comme, ils ont repris le contrôle du match, puis on a fini par perdre. Mais c'était quand même impressionnant, pareil, de quelle équipe, même sans ma présence, ait le vouloir de se battre, puis qu'il n'y ait jamais en bas dans la ligne. Ça, c'était vraiment quand même un beau moment aussi au Canadien pour moi.
Ouais, je regardais le match. Il y avait du monde dans les estrades, mais il n'y en avait pas autant qu'à Québec. Je repense à la finale québécoise, le match contre Sherbrooke. J'étais dans les estrades. J'étais tellement stressé. J'ai pas eu de fun. Je trouve que le volleyball, c'est un des sports que j'aime le plus regarder genre, sur place. Parce que chaque point, tu gagnes ou tu perds. Fait qu'on dirait que c'est tout le temps dramatique. Il n'y a pas de temps mort, si on veut, là, pendant le jeu. C'est quoi l'impact de la foule quand vous jouez? On sait que je pense que c'est assez mental le volleyball. Est-ce que la foule joue là-dedans?
Ah oh ouais, ça c'est sûr, certain. Là. Comme moi, personnellement, mettons, j'ai ça jouer à Sherbrooke. Parce que
ouais,
à Sherbrooke, il y a rien contre Sherbrooke, là, mais le junior est pas beau.
Non,
c'est
l'hiver,
puis là, les petites estrades partout, puis ça, c'est des étudiants, puis là, ça crie. Puis
durant la finale, en tout cas, dans la diffusion, là, tu sais, t'as du monde derrière toi, c'est vraiment proche, c'est des étudiants, là. Ça doit être fou. Ben, tu sais, c'est pas une ambiance pareille qu'à Québec, parce qu'à Québec, il y a plus de monde, puis il y a plus, c'est plus professionnel comme endroit, mais ça doit être vraiment tough de jouer à Sherbrooke avec des étudiants qui sont dans ton dos quand tu sers, que tu peux quasiment leur toucher tellement qu'ils sont proches, là.
Il y a comme l'éthique, on dirait qu'il y a vraiment moins là, puis c'est moins respecté, peut-être justement parce que c'est plus petit, il y a moins de monde, fait que t'entends vraiment ce que le monde te dit. Individuellement. Là. Personnellement, tu ne seras pas à ce niveau-là si quelqu'un qui te dit quoi dans l'oreille, ça peut t'affecter.
Ouais. Mm-hmm.
Mais c'est sûr que pour les petites recrues, mettons, là, c'est vraiment. C'est, ça fait quasiment peur, là. C'est vraiment un gros choc.
Ouais. Puis, tu sais, c'est la même affaire. En tout cas, au foot, c'est un peu la même chose, dans le sens que c'est tellement une communauté d'étudiants. Tu sais, ils vont occuper toute une partie de. Ils vont tous se mettre dans le bas des estrades, dans le stade. Puis, tu sais, tout ce qu'ils font, c'est de se mettre du bord de Laval, puis de leur envoyer des. De Laval, de n'importe quelle équipe, là, de leur envoyer des insultes, de trouver une façon. Tu sais, c'est ça qui est fou avec Sherbrooke, c'est que c'est tellement une ambiance universitaire différente. T'sais, c'est un peu, sans dire que c'est comparable aux États-Unis, dans le sens que je pense qu'il y a plus cette espèce de filtre-là qui est enlevé. Alors qu'à Québec, t'sais, en tout cas, tu me corrigeras, mais je pense que une ambiance un peu plus civilisée, en quelque sorte, parce que les gens applaudissent, ont du fun, puis sont capables de mettre de l'ambiance. Mais
il y a
que
beaucoup
c'est pas...
de famille aussi exact. Pour voir les matchs.
Ouais, exact. Donc ça change un peu la donne, mais t'sais, c'est ça, Sherbrooke, ça... moi je l'avais vu en étant juste au match de foot, j'étais comme, oh, OK, c'est vraiment pas pareil, là. C'est vraiment différent de ce que tu vois ailleurs. Là.
Puis quand même, je pense que l'ambiance, ça, justement, c'était là, ça a eu la est assez bonne, là, qu'à chaque fois que je vois les matchs, il y a beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance. On embarque dedans, là, le Monster Block, je suis fan de cette chanson-là, donc j'adore ça. Mais tu dis que toi, tu trouves ça difficile d'aller jouer à Sherbrooke, mais selon toi, est-ce que les autres universités trouvent ça difficile de venir jouer à l'Université Laval?
Ben, probablement, parce que les autres universités, juste leur environnement, ils se ressemblent un peu plus. C'est vraiment des terrains... plus petit, c'est plus restreint par rapport au PES, mettons qu'on a un des gyms les plus beaux au Canada. Là.
Ouais,
le plafond est haut. C'est sûr que de passer d'un petit gymnase à un haut PEPS, ouais. C'est sûr que c'est déstabilisant pour les autres équipes.
T'en parlais, le gymnase de Sherbrooke qui est vert, là, ça fait pas. En tout cas, ça fait pas du tout gymnase de volleyball, me semble. Puis tu passes, c'est ça, à Laval que c'est super professionnel. Puis assez impressionnant. Je me demandais, on en reparlait aussi, les championnats canadiens étaient. Les gars et les filles, les championnats canadiens de volley, là, les gars et les filles étaient à Québec, je pense, pendant que tu étais au cégep.
Ouais.
Tu me l'avais dit, tu étais au moins à ceux des gars. Est-ce que de voir ça, cette ambiance-là, ça te donnait envie de vivre ça aussi en étant pour le Rouge et Or?
Ben oui, en plus, c'était le Canadien, là, c'était les salles, pas le savoir, le monde, les gymnases étaient pleins, ils étaient à rebord, là, c'était une ambiance incroyable. Ouais. Le calibre de joueurs et tout qui était là, c'est les meilleurs au Canada. Ouais. C'est sûr que toi, en tant que petite recrue qui va être là l'année prochaine, là, tu mets de la pression, tu dis, mais que je suis vraiment au talon que ces gars-là, c'est vraiment. Mais ouais, le Canadien, c'était vraiment incroyable. En plus, c'était la dernière année que Vicho était là, qu'on a pu voir Vicho jouer. Ouais. Puis, c'était juste vraiment du beau volleyball.
Je me rappelle, je pense qu'il y avait des gens qui me disaient justement que une des meilleures expériences qu'il y avait eues, c'était pas 2019, je pense que c'est 2013, l'année, ou 2014. En tout cas, dans ces années-là, que Rougeur avait gagné à la maison, je pense, les gars. Ils me disaient, tu sais, c'est ça qui fait la beauté de Laval, c'est que t'arrives dans des championnats comme ça, puis les gens répondent présents, se présentent et tout. Puis justement, par rapport à ça, tu sais, est-ce que quand t'arrives dans des universités comme, vous êtes à Queen, je pense, c'est ça? Est-ce que, tu sais, c'est un peu décevant de voir des fois des stades qui sont un peu vides ou moins remplis pour autant pour l'équipe locale que pour les autres équipes? Est-ce que, tu sais, c'est... T'arrives au Canadien, t'as des grosses attentes en ayant été à Laval. Est-ce que c'est quelque chose qui vous déçoit? C'est peut-être un mot fort, mais tu sais, c'est quelque chose qui vous démotive un peu de voir qu'il y a moins de monde ou que c'est moins partagé le sentiment de fierté pour le volleyball. Ben, pas pour le ball, pour n'importe quel autre sport, parce que c'est ça au basket aussi, quand les filles, quand ils étaient là en Alberta, il n'y avait personne pour les matchs des autres équipes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous déçoit ou vous jouez votre match, puis au final, c'est l'honneur de gagner les Canadiens?
Ouais, je pense que c'est ça et tout, mais c'est surtout, c'est normal qu'il y ait tout le temps moins de spectateurs les matchs que c'est pas l'équipe haute qui joue. C'est sûr que quand l'équipe haute joue, là, peu importe contre qui joue, ça va être plein. Mais je pense même que ça pourrait être un avantage pour nous. T'sais, on est habitué de jouer contre des salles de jusqu'à 2000-2500 personnes. Puis quand t'arrives tu joues une game, même si t'es au Canadien, s'il y a 200-300 personnes, c'est quasiment moins. Moi, je trouvais que c'est quasiment moins stressant de jouer devant au Canadien devant 200-300 personnes qu'au PEPS devant 2500 personnes que tu veux pas décevoir. Là.
Ah, exactement. Ouais.
Sur ce, on va faire une petite pause publicitaire. Au retour de la pause, ça va être la conclusion de notre entrevue et de l'émission. Donc, restez avec nous sur Continent Sportive à CHIZ 94.3.
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Bonjour, ici Boris Chassaigne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Tous les vendredis à 13h30 sur Cheese 94,3 FM.
Cheese 94,3 débarque au Foufoun électrique le 17 mai dans le cadre du Pouzza Fest pour une émission spéciale en direct. Au menu, des entrevues avec des groupes et artistes qui performeront, des informations sur la programmation et plus encore. Venez nous voir sur la terrasse des Fouf dès 17h le 17 mai.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Béchy.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Vous avez envie de vivre l'impossible? Vous avez soif de challenge et vous voulez vivre une expérience unique en son genre? Venez visiter le cabinet Mystéris et tentez votre chance en essayant un de leurs nombreux jeux d'évasion. Le cabinet Mystéris s'est classé parmi les meilleurs jeux d'évasion du monde. C'est donc un endroit incontournable à visiter dans la ville de Québec. Rabais de 10% du dimanche au jeudi sur présentation de cartes étudiantes. Au cabinet Mystéris, venez vivre l'impossible.
Bienvenue à Conduite Antisportive sur les ondes de Cheese 94.3. On conclut notre émission, notre entrevue avec Nicolas Fortin. Nicolas, on a parlé de ton parcours à Limoilou, à Laval. J'avais une question d'emblée comme ça. Est-ce que jouer professionnel, c'est dans tes plans ou c'était dans tes plans?
Oui, mais ça l'a été pendant plusieurs années. Dès que mon rêve de petit enfant, c'était toujours de jouer à Laval. Puis si t'es capable, peut-être jouer pro, ça l'aurait été incroyable. Puis là, dernièrement, tu sais, depuis les deux dernières années, il y a beaucoup de blessures qui sont apparues vraiment plus importantes dans ma carrière. Puis ça, c'est le genre de blessure que bien, plus tu continues à jouer, bien, plus tu hypothèques ton physique plus tard dans le futur. Tu sais, tes genoux puis tes épaules, bien, là, tu vas avoir mal. Si tu continues une année de plus, bien, tu vas peut-être commencer à avoir mal vraiment plus à 45 ans par rapport à 50. Tu sais, c'est comme dégénératif un peu, ces affaires-là. Puis là, ça a comme fait en sorte que j'ai décidé de ne pas jouer finalement cette année, même si avec Gino Brousseau, c'est dur d'avoir un meilleur contact international pour se trouver une équipe où jouer. Mais ouais, j'ai décidé de ne pas continuer. Puis même l'année prochaine, parce qu'il me reste une année d'éligibilité. Mais ouais, c'est ça, j'ai décidé que c'était assez le volleyball d'un point de vue douleur. C'est tout le temps plaisant là, quand tu es sur le terrain et tu joues. Mais on dirait que c'est de moins en moins le fun après, quand tu es plus sur le terrain, de gérer toute la douleur. Puis là, c'est ça, la gestion de la douleur après les matchs, c'est plus agréable.
C'est principalement les blessures, dans le fond, qui t'apportent à accrocher tes souliers.
Ouais.
OK.
Ça a été vraiment un beau trip là, de faire ça pendant un an ou deux, mais c'était assez.
Vas-y.
Mais je me demandais, c'est quel genre de ligue que tu visais, j'imagine, ça doit être en Europe, c'est quel genre de circuit? Ouais,
mais c'est sûr qu'au début, comme dans un travail de vie, il faut que tu te fasses un nom.
Ouais.
Fait que là, c'est sûr qu'en ayant Gino Brousseau comme contact, ça t'aide un peu. Mais j'aurais sûrement visé du Pro B, une bonne équipe de Pro B ou Pro A, comme par exemple en France ou dans une ligue comme ça. Puis là, c'est ce rendu-là, ben là, t'évolues. C'est sûr que t'embarques pas dans une ligue ou une équipe trop forte dès le départ. Mais là, tu te fais un nom, puis là, tu montes les échelons des ligues rendues là-bas. Ouais.
Est-ce que le fait de, tu sais, je sais que ton père va coacher, est-ce que c'est de quoi qui t'in, ben, pas qui t'intéresse, mais est-ce que c'est toi qui t'allume peut-être un jour coacher, que ce soit pas nécessairement à Laval, mais dans d'autres sphères, des jeunes ou d'autres choses, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser un jour de coacher, ou c'est vraiment quelque chose que t'as mis une croix aussi là-dessus de?
Je suis vraiment pas fermé à coacher. C'est sûr que il y a des très bons joueurs qui font vraiment pas nécessairement des bons coachs. Ouais. Personnellement, je trouve pas que je serais un très bon coach. S'il y a une opportunité puis un besoin ou ce que je vais être plus tard, je dis pas non.
Pourquoi t'as pas l'impression que tu serais un bon coach?
Ah, c'est parce que comment je pourrais expliquer ça?
Je suis
pas un très bon orateur puis expliquer tous les détails. Comme, ouais. Moi, je les connais les détails parce qu'on me les a bien expliqués, mais je suis pas le genre de gars qui va être capable de bien expliquer le fondamental qui est trop normal pour moi.
Ok. Mettons. Ok.
Ouais.
C'est trop de l'acquis, fait que ça serait difficile.
Ouais,
de...
Juste les positions, là. Moi, je connais toute ma position par cœur, mais la position des autres, là, mettons, jouer à 4, là, ça serait dur pour moi. Là.
Je me demandais aussi, mais tu sais, si tu avais voulu jouer pro, c'est quoi les démarches? Là, tu parlais de ton entraîneur, tu sais, pour se faire voir en Europe, là, où, est-ce que tu dois passer justement par tes contacts? Est-ce que ça aurait été d'envoyer des vidéos de toi qui joues? Comment ça marche, essayer de se trouver une équipe professionnelle?
Ben, de mes maigres connaissances, parce que justement, j'ai décidé de pas y aller. Mais ben, tu trouves un agent, justement, puis là, tu te fais mettons, des vidéos de highlight ou tu essaies de sélectionner tes meilleurs matchs, puis là, c'est ça que tu envoies aux équipes qui t'intéressent. Là. Ouais.
Puis si t'as mis une croix là-dessus, c'est quoi la suite là, pour toi? Tu t'es dit que tu revenais pas avec les Rougeurs l'année prochaine. Qu'est-ce que tu vas faire?
Mais là, moi, j'ai un travail à Rimouski. Fait que là, justement, je m'en allais à Rimouski avec ma copine qui sa famille est dans le coin. Puis justement, là, on est en processus de s'acheter une maison, puis on part sur la vraie vie puis d'étudiant. Ouais.
C'est vraiment un nouveau chapitre qui commence, puis dans le fond, le chapitre actuel des études de l'université qui se termine. Fait une bonne rupture, j'ai l'impression, entre les deux. Est-ce que ça te fait peur de complètement changer de mode de vie comme ça?
Jusqu'à tant que tel, je suis vraiment quelqu'un d'adaptatif, puis de jamais bien stressé dans la vie. Puis tu sais, après 5 ans d'uni, t'as le temps de passer par toutes tes phases, puis t'as le temps de maturer, puis là, avec 5 ans, on doit être prêt à passer à autre chose. Là. Mm-hmm. Ouais.
Puis est-ce que le Rougeur va être encore dans ton cœur? Est-ce que tu as encore le désir de revenir? Je sais que tu vas être à Rimouski, c'est un peu loin, là, mais tu as encore le désir de revenir voir tes anciens coéquipiers quelquefois l'année prochaine, ou c'est tu essaies de pas te distancer, mais de dire OK, tu fais si jamais ça arrive, ça donne, mais tu sais, c'est quelque chose que tu vas vouloir refaire, de revenir voir ton monde ici, ou tu passes un peu, tu laisses un peu le flambeau au nouveau?
Non, tu peux pas mettre une croix sur 5 ans de volleyball, là, de, genre, c'est sûr, certain qu'on va venir voir des matchs en boys l'année prochaine. Ouais. C'est sûr, certain. Ouais.
Ouais. Selon toi, c'est quoi les attentes de l'équipe pour l'année prochaine?
Vite de même, c'est sûr que en se comparant à Sherbrooke, qui sont la meilleure équipe au Canada, eux autres, ils perdent pratiquement aucun joueur.
Il n'y en perd aucun, ouais, c'est ça.
Il n'y en perd aucun, c'est ça que nous autres, on perd moi, Will, puis Jonathan, qui sont vraiment justement des piliers. Fait que, d'après moi, l'année prochaine, c'est peut-être un peu en reconstruction, mais il reste encore des excellents joueurs, entre autres, mettons, Max, Charles, qui étaient quand même des très bons morceaux cette année. Je suis convaincu qu'ils vont être excellents l'année prochaine, puis qu'ils sont capables de faire au moins autant bien, sinon meilleur que ce qu'on a fait cette année.
J'avais une couple de questions sur le sport du volleyball pour toi. Là, je sais que tu viens de nous dire que tu n'es peut-être pas le meilleur orateur, là, le meilleur pour parler de ça, mais ça m'a, tu es un des. Je pense que tu menais le Canada là, pour les attaques marquantes dans au volleyball. C'est quoi ton processus quand tu attaques? Là, du moment que le ballon traverse le filet puis que c'est ton équipe qui le reçoit, qu'est-ce que tu regardes pour prendre tes décisions, comment te placer puis attaquer?
OK. Mais premièrement, l'important, là, c'est. En tout cas, personnellement, là, dans mon tête, je me sentais confiant puis agressif. Tout le temps, genre, agressif, tu veux tuer le ballon, là, tu veux l'étamper d'en face justement à quelqu'un d'autre bord. Ça, c'est faut que ça soit ton mood au départ. Wow. Puis là, le ballon traverse. Fait que là, étant comme un attaquant qui a beaucoup de volume, souvent, moi, mon corps en défensive, il est pas gros. Là. Dès que c'est pas proche de moi, là, je me pousse puis je me prépare à frapper mon ballon. Fait que là, je recule. Puis là, pendant que la passe, le premier contact s'en va sur le passeur, puis là, avant que Charles l'ait dans les mains, je sais où non. Je sais déjà si je vais avoir le ballon ou non. Fait que là, ça va comme influencer ma course d'aller faire un soutien si j'ai pas le ballon ou bien sauter pour faire mon attaque si j'ai le ballon. Puis là, après ça, je vais faire mon gros joueur de gauche. Puis là, quand tu sautes, ben là, tu regardes comme deux choses en même temps. Tu regardes ton ballon qui monte, puis en même temps, ben là, tu regardes ton bloc, il se place où. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui fait une grosse distinction entre un bon attaquant puis un attaquant, mettons, moyen ou médium, c'est être capable de voir le trou dans le bloc puis de frapper par-dessus, à côté, Puis, à fond, c'est ça. Le vraiment important, c'est d'être capable de frapper où ce que le bloc est pas. Mais des fois aussi, quand t'es assez conscient pour savoir ton bloc est où, ben, tu peux frapper vraiment fort dans une main pour que ton ballon il sorte. Comme autant, t'as comme plein d'options. C'est ce qui fait en sorte que t'es jamais dans. T'es jamais mal pris dans le fond.
Puis quand t'attaques, est-ce que tu. Je sais que t'es pas le plus grand de l'histoire du volley, là, mais t'étais capable de te monter assez haut quand même. Mais est-ce que
si je me trompe pas, c'est 3,50 m d'impulsion?
À peu près, ouais, on peut dire ça.
C'est quand même pas mal. Mais est-ce que tu te dis que avoir eu un ou deux pouces de plus, est-ce que ça a vraiment un impact sur ton attaque ou sur la façon que tu vas attaquer ou c'est plus défensif que ça aurait eu un impact sur toi au volleyball?
C'est sûr qu'au volley, un deux pouces, tu dis jamais non là-dessus. Mais je pense que ça aurait pas pu nuire. Ouais. C'est sûr qu'en étant un petit peu plus grand, tu as besoin de sauter moins haut pour atteindre la même hauteur au final. Donc, je pense que t'es moins magané, tu te ménages les genoux puis les muscles.
Ouais.
Mais ouais, j'aurais pas dit non pour deux pouces.
Ouais, c'est on lisait un article, une entrevue que tu avais eue au Journal de Québec. Puis c'est ça que, tu sais, 6 pieds 2, normalement dans la vie, ben, c'est à peu près la même grandeur que moi. Ouais. On est dans les grands, mais moi je joue au basket. Au basket, j'étais pas dans les grands, c'est pantoute. Ouais. Mais tu disais que, en tout cas dans l'article, je sais pas, peut-être que tu te rappelles pas, mais tu disais que peu importe la grandeur de l'autre, tu frappes avec la même force. Là, tu viens de nous dire que tu veux être agressif, tu veux l'étamper. Je me rappelle plus c'est quel set, mais tu avais gagné la manche contre Sherbrooke en finale du championnat québécois sur une attaque. Honnêtement, je pense que tu as touché au plafond du PEPS. Mais est-ce que c'est juste la génétique? Parce que non seulement tu sautes haut, mais tu traverses aussi beaucoup de distance. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi bon pour sauter au filet?
Je pense que c'est le meilleur justement de travail puis génétique. Peu importe à quel point tu t'entraînes, comme dans tout, c'est comme dans le culturisme ou dans n'importe quoi, le cardio, il faut que tu aies un aspect génétique pour performer par rapport aux autres. Là, personnellement, c'est mon père. En tout cas, pas pour la grandeur, c'est mon père me dit 5 et 9, ma mère 5 et 2. Là. Mais l'aspect sauté, là, mon père, tous ses amis, mon père me l'a toujours dit, mais je ne l'ai jamais cru, là, parce qu'il était tout petit, justement, et ses amis, dans le temps, ils me disent tout le temps qu'il pognait justement lui, tout 3,50, 3,40 à peu près, en même temps tout petit.
Aïe, aïe, aïe. C'est comme là, toi, là. Ouais.
Ouais. Ouais. Ça va bien comme toi, mais il me sautait autant que moi, puis là, je ne croyais pas à ça, mais là, à un moment donné, ses amis m'ont fait rentrer ça dans la tête. Fait que j'ai l'aspect génétique de mon père, puis justement, tout l'entraînement physique qu'on fait, mais. Comparé aux autres, mettons, pour un entraînement similaire que j'ai fait, mettons, avec Joe P. Will, probablement, moi, l'aspect génétique m'a vraiment fait plus ressortir l'impulsion.
Mais si tes parents, si ton père est 5 et 9, ta mère est 5 et 2, t'es vraiment chanceux d'être 6 pieds 2, pour vrai. Là.
Quand j'en parlais plus jeune avec mon frère, là, c'est comme, hey, on pourrait être au-dessus de 6 pieds, là, ça serait incroyable, on aurait réussi notre vie.
Ton frère, lui, est-ce qu'il est aussi grand que toi?
6 pieds.
OK, ben quand
même. C'est quand même 6 pieds. Ouais.
Pas mal.
Tu fais pas ça tout seul aussi, il y a de la communication qui se passe sur le terrain là, en étant proche, en assistant à des matchs. Je me suis rendu compte que vos coéquipiers, ils vous disent ceux qui sautent, qui font des attaques, là, combien il y a de personnes au bloc. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est quoi la communication sur un terrain de volleyball?
Oui, bien évidemment, mettons à l'attaque, mais c'est vraiment pratique de dire deux. Mais il y a souvent des équipes qui disent trois, deux pour deux bloqueurs quand tu attaques ou trois bloqueurs. Parce que souvent, quand tu es dans une mauvaise position, par exemple, tu as le ballon un peu derrière toi. Fait que là, t'es obligé de regarder ton ballon, puis t'as plus la capacité de regarder le bloc. Fait que là, quand tes chummies te disent 2 ou 3, ben là, à 3, tu sais que tu vas avoir 3 blocs, fait que moins de place. Donc, tu sais, tu peux plus contrôler ton ballon, ben frapper encore plus fort, ou ça donne vraiment un gauge. Mais sinon, les autres communications, c'est comme j'ai parlé un peu tantôt pour l'attaque, vu que moi, je prends pas beaucoup de place en réception pour aller attaquer, ben dès qu'il y a une balle facile que ça va proche de moi, ben là, je vais attendre Will ou un gars de 4 qui est en position 6, dire à moi ou je l'ai ou n'importe quoi, ce qui va faire en sorte que même si la balle ça va direct sur moi, ben moi je vais me pousser, je vais me préparer, puis lui il va se déplacer de sa position pour aller prendre le ballon.
Je me demandais aussi c'est quoi, j'imagine qu'il y a un côté stratégique aussi au volleyball là, qu'on connaît moins, tu sais, ceux qui le pratiquent pas ça comme sport, ça ressemble à quoi un peu les tu sais vaguement là, mais les stratégies au volley?
Ah, mais vite de même, c'est au service par exemple, on fait souvent un écran où on veut servir. Mettons, pour les gens qui connaissent un peu les positions, mettons que je fais service du 5 vers le 5, mais là, on va mettre les trois gars au net, ils vont se coller, puis ils vont essayer de cacher la vue du gars qui va réceptionner en 5 pour l'inouer, puis qui shank le ballon. Ça, c'est une des stratégies. Puis aussi, pour prendre par surprise, ben, tu peux juste l'envoyer à l'opposé où ce que le gars s'attend pas de l'avoir. C'est ça, c'est un exemple de stratégie. Mais sinon aussi, souvent, on sait que les passeurs sont plus petits, pas dans notre cas, parce qu'avec Charles, à 6 pieds 6, c'est un très grand passeur. Mais souvent, c'est, ça va être une stratégie de l'envoyer le ballon à 4 à ton attaquant qui est contre le passeur, ouais, qui souvent est moins haut. Donc, t'as comme l'avantage par rapport à lui.
Ouais. OK. Puis, il n'y a pas, mettons, des positions à la réception du service ou quand les autres équipes attaquent, là, ça ressemble à peu près d'équipe en équipe, ouais, j'imagine.
Mais comme pour le serveur, par exemple, il y a des différences entre chacun des joueurs, oui, ça devient compliqué, mais juste en type de service. Par exemple, un spike, là, t'as pas le choix, faut que tu sois vraiment dans le fond du terrain, tu prépares à prendre un ballon en manchette. Mais les flotteurs, au contraire, il y a des gars qui préfèrent réceptionner en touche, donc ils vont s'avancer sur proche du 3-4 mètres pour essayer d'intercepter le ballon en touche. Ça, c'est une stratégie dépendamment du type de service. Puis c'est quoi l'autre aspect que tu m'avais dit? Service.
Réception, ouais, mettons sur une attaque ou.
Ah oui, les attaques et tout, mais au bloc aussi, dépendamment des attaquants, tu sais, on a des programmes qui font toutes les statistiques des autres équipes pour tous leurs matchs. Puis là, ça se compile. Puis là, tu as un pourcentage, tu sais. En telle position, ben, le passeur il va envoyer à 32% à 4. Ben, on sait tout ça. Okay? Ouais. Puis là, on sait que cet attaquant-là, lui, mettons, 72% du temps, il attaque la Diago. Fait que là, ben, lui, on va ajouter notre bloc puis notre défense en fonction qu'on sait que 72% du temps, il frappe la Diago. Fait qu'on va y bloquer, mettons, la Diag, on va laisser un gars à def sa ligne. Ça, c'est pour les ailes, pour au centre, pour les services, on a des pourcentages et tout, ça finit plus. Là.
Est-ce que vous faites du vidéo ou avec ces statistiques-là, vous êtes correct?
Oui, on a les deux. Ouais, si on fait du vidéo, mettons, on joue le vendredi, ben, souvent le mardi, on va faire un petit 30-45, une heure de vidéo, puis on va faire ça le jeudi et tout. Personnellement et tout, il faut que tu fasses un minimum de vidéos plus spécifiques. Comme par exemple, les réceptionneurs attaquants, eux autres, ils vont faire de la vidéo sur les services de l'autre bord pour savoir à quoi s'attendre.
Ouais.
Moi, personnellement, mettons, je regardais plus un peu les blocs pour pouvoir m'ajouter sans avoir à savoir exactement au moment présent qu'est-ce qu'il allait faire.
OK. Puis est-ce que, tu sais, au final, c'est une ligue au Québec qui n'est pas énorme, là, dans le sens que vous avez quoi, 5-6 équipes, là, si je m'en rappelle bien?
5 équipes.
Est-ce que vous finissez par connaître les autres équipes vraiment bien, dans le sens qu'au final, vous n'avez même plus besoin de regarder les statistiques, vous avez à peine besoin de faire du vidéo parce que vous savez qu'est-ce qui vous attend, ou tu sais, vous en faites quand même tout le temps pour être sûr de le savoir?
C'est ce qu'on a fait beaucoup plus au début de l'année.
Ouais.
Puis là, comme par exemple, Nouveau-Brunswick, ici, il n'y a aucun joueur qui change, mais c'est sûr qu'à la fin d'année, ben, on fera pas les mêmes temps de vidéo. On va s'offrir un petit 15 minutes pour les avoir fraîchement en tête.
Ouais.
Mais ouais, c'est après ça, le vidéo devient vraiment plus intense pour le provincial, que là, tu mets les bouchées doubles pour donner toutes les chances.
Ouais.
Mais ouais, sinon, c'est ça.
C'est là qu'on voit que dans le sport compétitif, là, de haut niveau comme ça, le sport d'élite, les capacités physiques sont extrêmement importantes, mais c'est vraiment pas ce qu'il...
C'est pas juste ça. Là.
C'est pas juste ça, exactement. Les capacités intellectuelles sont, elles aussi, extrêmement importantes, sinon peut-être dans certains cas, tout autant, là. Mais ça nous a parlé, puis de toutes les stratégies, ça faisait réaliser ça. Puis j'étais comme, wow, ça paraît que les étudiants athlètes ont une bonne capacité d'apprentissage parce qu'ils apprennent toutes les statistiques de chaque joueur. Ça doit prendre quand même pas mal d'heures d'études. Je sais pas combien de temps tu passais à étudier puis à regarder ces vidéos-là
comme
par
ça,
semaine.
Ça dépend du profil de joueur. Puis justement, tu as des joueurs que ça va être vraiment plus important, qui connaissent vraiment plus leurs stats. Mais moi, personnellement, mettons dans mon jeu, c'était pas vraiment important que je fasse autant de vidéos. Par exemple, il y a un joueur de centre. Un joueur de centre, c'est vraiment touché sur au milieu du terrain. Puis là, le ballon, il peut aller à droite, il peut aller à gauche, puis il peut aller au-dessus d'eux. Fait que, personnellement, là, je trouve que le joueur de centre, c'est ingrat, maudit, là, parce que t'es tout le temps en réaction, t'es tout le temps... Puis les joueurs de centre, ils ont vraiment les stats dans la tête, parce que quand t'es au centre, puis le ballon est là, puis t'as aucune idée, mais là, tu te fies à tes stats pour faire un move.
Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous colle la shot dans le sens qu'il y a-tu quelqu'un sur le terrain qui communique plus, mettons, sur peu importe, sur l'attaque ou la défense? Est-ce que, tu sais, il y a du monde qui parle plus, j'imagine qu'il y a du monde qui parle moins, mais comment vous déterminez ça? Est-ce que ça se détermine ou finalement c'est par match, ou finalement il y a quelqu'un qui parle plus? Ou, tu sais, y a-tu quelqu'un, tu sais, tu parlais justement des gens qui te disent deux, trois, peu importe. Est-ce qu'il y a une personne qui est assignée à cette communication-là ou au final ça se fait un peu automatiquement?
Mais je dirais que c'est vraiment le rôle à majorité du libéro, de comme contrôler toute ta défensive en arrière, mais n'importe qui peut parler. On va taper ses doigts de quelqu'un qui colle le ball. Mais sinon, plus respectivement, mais c'est sûr que chaque attaquant de chaque jeu va parler avec son passeur, colle les jeux.
Je me demandais aussi, c'est quoi le rôle de l'entraîneur? T'sais, pendant le match, on a parlé des stratégies, mais est-ce qu'il fait juste les changements ou il apporte aussi des petites modifications qui se passent sur le terrain?
Ouais. Ben Gino, mettons, c'est lui, c'est vraiment la tête qui dirige tout, là. Tu sais, il y a les assistants qui prennent leur start, mettons, d'attaque ou de défensif, tout. Puis là, ça se rapporte tout à Gino. Puis Gino, c'est vraiment lui qui qu'on compute toutes ces infos-là, puis qui sort avec la stratégie puis les moves à faire selon son expérience de joueur et de coach. Mais ouais, c'est, il fait pas juste coller les changements. Là.
Okay.
Il y a vraiment toutes les... Gino, lui, il doit faire... Avant chaque match, là, il fait des heures de vidéos. Là. C'est incroyable, vous imaginez même pas. Là. Mais ouais, il connaît vraiment l'adversaire par cœur à chaque fois. Puis des fois, il va prendre une décision, t'en comprends pas, mais c'est Gino qui a fait 36 heures de vidéos sur cette équipe-là. Tu
fais confiance.
Puis j'imagine que la gestion des temps d'arrêt, c'est un peu la même chose. Là. Au-delà du momentum qui peut changer, j'imagine que lui vous colle les temps d'arrêt, puis vous, même à des moments où peut-être vous pouvez moins comprendre, je veux dire, vous faites confiance parce que vous savez ce qu'il y a en tête, vous savez qu'il va avoir un impact. Là.
Oui, puis il est dans l'équipe, mais il a quand même un point de vue quand même un petit peu extérieur, puis il voit que quand ça commence à déraper ou que ouais. ces gars, ils pourraient potentiellement laisser une série, ben, c'est vrai qu'il est mieux de faire un temps mort puis d'arrêter ouais. ça même si on ne comprend pas ce coup. Là.
Ouais.
Ben, c'est ça le rôle d'un coach.
Ouais. Ce que je trouvais curieux aussi au volleyball, puis c'est pas juste pour le Rougeard, mais pour toutes les matchs que j'ai vus, des fois, il y a des joueurs ou des joueuses qui embarquent. Ils ont pas joué de la game. Tu sais, c'est au troisième set. Des fois, j'ai vu du monde embarquer dans des situations importantes, au service. Là, tous les yeux sont sur toi. À quel point c'est dur sur le cardio un match de volley? Puis de deux, est-ce que c'est dur de rentrer? Ben là, cette année, toi, tu l'as pas vécu. Tu jouais presque tous les matchs, toutes les minutes. Là, mais est-ce que c'est dur de rentrer, tu sais, comme ça, là, à froid, en plein milieu d'un match?
C'est sûr que personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai tout le temps parti, tous mes matchs depuis le cégep. J'ai tout le temps été sur 6. Mais j'avoue que c'est sûr que c'est un rôle ingrat de starter à froid. Tu sais, normalement, tu veux donner les chances, tu veux être réchauffé, puis les autres, ils arrivent à fret, puis ah ouais, toute la pression sur toi. Mais souvent, c'est comme des spécialistes au service, mettons, qui vont remplacer un joueur de centre pour amener un aspect défensif. Parce qu'on sait que quand les joueurs de centre, normalement, sont vraiment moins habiles en réception puis en défensive. Fait que là, on va mettre un joueur qui a un bon service, mais qui va pouvoir carry en réception puis ouais, à def, ouais. à place du joueur de centre. Fait que ça arrive souvent. Mais il y a aussi, souvent quand un joueur se blesse ou ben est fatigué ben ou dans une mauvaise passe, juste sortir quelques points puis mettre n'importe qui d'autre, même si la personne là fait pas la meilleure des jobs, ben si c'est assez pour reposer ton gars de 6 partants puis qu'il se refasse une tête fraîche, ça peut valoir la peine aussi, même si c'est pas payant sur le coup, mettons.
Je me demandais, ben c'est ça, est-ce que à quel point c'est cardio le volley ou c'est, tu sais, évidemment c'est dur physiquement, mais est-ce que tu le sens surtout le lendemain ou même pendant le match là, c'est extrêmement demandant aussi.
Ouais, c'est sûr qu'à vide de même, volleyball féminin puis masculin c'est très différent, tu sais, les filles c'est vraiment plus cardio, c'est des longs échanges qui finissent plus, mais là les gars normalement c'est un échange ou deux max, puis là il y a eu un point qui se fait parce que ça frappe plus fort puis c'est plus physique. Mais c'est sûr que même un petit rallye, là, que 3, 4, 5 échanges, la patate, ça pompe pas mal. Là. On n'est pas habitué à ça. Là. Surtout les gars, on est vraiment plus explosifs. Ouais. Fait que quand l'échange prolonge, c'est dur sur le cœur. Ouais.
Est-ce que, tu sais, je sais qu'à Laval, puis je pense que ça doit se faire partout dans la RSEQ, mais tu sais, vous aviez normalement la façon que c'est fait, c'est qu'il y a le match des filles qui commence à une heure fixe, mais vous commencez jamais à une heure fixe. Là. Vous avez, votre match peut commencer, tu sais, ça peut être 2-0 dans le match, point de match qu'au final, pensez jouer là, puis finalement, ça revient, puis ça finit 3-2 pour l'autre équipe. Comment vous vous préparez à ça, sachant que vous pouvez autant commencer le match à 7h qu'à 9h30? T'sais, est-ce qu'il y a une préparation qui est différente pour vous à ce moment-là? T'sais, comment vous faites pour arriver vraiment chaud puis prêt pour un match, même si vous savez pas exactement quand ça commence?
C'est drôle que tu parles de ça, c'est vraiment un gros enjeu. Là. Ouais. Tu ne penses pas nécessairement, mais ouais, c'est ça. Mais souvent, dès que l'équipe des filles, n'importe quelle équipe, mène 2-0, ben là, nous autres, on va aller faire comme un petit 2 minutes de concentration que t'es vraiment, tu te concentres sur toi, puis tu fais ce que tu veux. Puis après ça, c'est ça, on est vraiment comme réchauffé. Mais comme tu dis, ça se peut que dans 10 minutes, tu joues, puis ça se peut qu'il passe encore 2 sets, puis que tu joues pas encore. Là.
Ouais.
Fait que c'est vrai d'être adaptatif. Puis
est-ce que, même de l'autre côté, t'sais, vos matchs, justement, en commençant tard, peuvent finir quand même tard? Est-ce qu'encore là, c'est encore une fois quelque chose que vous devez vous adapter? Parce que, t'sais, autant votre match peut finir à 9h30 qu'il peut finir quasiment à minuit. T'sais, est-ce qu'encore là, c'est de quoi que vous devez vous adapter, je sais pas, avec votre sommeil ou peu importe, pour pas arriver complètement mort à la fin du match? Ou, t'sais, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte quand vous arrivez dans des jours de match?
Ouais, mais peu importe, tu t'attends tout ça, des petites collations pour être sûr de te faire, mettons, si ça finit vraiment tard. Puis comme on a parlé un peu tantôt aussi, rendu sur le terrain, là, c'est l'adrénaline. Là. Fait que peu importe qu'il soit 6h ou ben 11h le soir là, avec l'adrénaline dans le piton, là, tu as de l'énergie. Puis c'est juste qu'après justement le match, quand il est rendu ton 10h, ben, ça descend pas mal plus vite l'énergie.
Puis est-ce que tu penses que, tu sais, dans un monde vraiment idéologique, ben pas idéologique, mais un monde utopique. Voilà, utopique. Dans un monde utopique, est-ce que tu penses que ça aurait un plus d'avoir, mettons, le match des filles et des gars sur une journée différente parce que justement ça vous permettrait de vous préparer davantage correct ou au final vous êtes correct avec cette formule-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous avantagerait peut-être d'avoir justement cette heure fixe-là de match?
Ouais, c'est sûr que d'un point de vue optimal, je dirais que ce serait mieux que ça soit séparé et que tout le monde fasse les heures, mais rendu là, tu as comme tout l'aspect logistique du PES. Ouais. Du PES, si tu divises ça, ben là, tu gaspilles deux soirées, mettons, pour le basket ou n'importe quel autre sport. Puis c'est le fun du tout pour les partisans, tu sais, de pouvoir checker en une soirée, ben les gars puis les filles d'une shot. Mm. Tu sais, c'est pratique pour ça.
Des fois, vous l'avez, par contre, les matchs de fin de semaine, l'après-midi, qu'est-ce que tu préfères, les matchs de soir ou l'après-midi?
Souvent, vu que les programmes d'eau, je préfère les programmes d'eau parce qu'il y a plus de monde.
OK, ouais.
Mais en tant que tel, je préfère ton petit match le samedi à 1h, couler dans le béton. Là.
Ouais.
Si j'avais à choisir, ça serait les matchs du samedi. Ouais.
J'avais aussi deux petites dernières questions là, sur l'aspect du volleyball. Je me demandais, au service, là, souvent on voit les joueurs ou les joueuses se faire des signaux dans le dos. C'est quoi ça?
Ouais, ça, dans le fond, c'est quand on fait un 2 dans le dos, en général, ça veut dire que la personne qui fait le bloqueur, 1-2, bloque la diag. Ça veut dire que toi, en réception, ben, en défensive, tu vas aller sur la ligne. Un 1, c'est je bloque la ligne, puis un point, c'est je bloque le ballon.
Okay.
En arrière, organise-toi. Ouais.
Et dernière question, je me demandais, les pratiques de volleyball, ça ressemble à quoi? Je sais que moi, au basket, on passait beaucoup de temps à pratiquer nos jeux qu'on avait en tant qu'équipe. C'est quelque chose qui n'y a pas nécessairement au volleyball. Est-ce que c'est juste de pratiquer vos smash puis vos habiletés physiques ou il y a un peu une partie stratégie aussi?
Bon, je dirais qu'une pratique, une semaine classique, c'est vraiment, mettons, lundi, mardi, on pratique plus des drills spécifiques d'attaque ou de défensive ou de service. Puis là, le jeudi, vendredi, c'est vraiment plus splitté. La première moitié de la pratique, on fait des petits drills comme ça encore, mais la deuxième moitié de la pratique, on fait au moins une heure et demie de vraiment jeu 6 contre 6. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une équipe quand même avec plusieurs joueurs pour pouvoir jouer les uns contre les autres en pratique.
Mm-hmm. Ouais. Tu joues depuis que tu es tout jeune. Je pense que le volleyball masculin, en général, grandit. Au Québec ou tout le moins dans la région de Québec, l'école secondaire de Mont-Victor a récemment là, une équipe masculine. Est-ce que tu le sens ce gain de popularité là du sport?
Oui, on le sent surtout chez les petits gars. Justement, comme tu disais, il y a de plus en plus d'équipes. Je me rappelle moi dans mon temps là, ça avait tout pris là, puis on était 8. Faut pas qu'il y en ait un qui se blesse parce que sinon on n'a plus de plaisir. Là. Mais même ça en quantité d'équipes, on voit vraiment plus d'équipe totale à chaque catégorie d'âge de nos jours. Puis même dans les estrades et tout, je me rappelle que dans le temps, quand j'allais voir le Rougeur en étant jeune, les petits gars, il n'y en avait pas vraiment beaucoup, mais là, il y en a de plus en plus. Puis, tu sais, ça va vous prendre des photos après les matchs, puis c'est vraiment plaisant.
Mm. Est-ce que tu crois que ça pourrait être possible, puis est-ce que tu y rêves qu'il y ait une ligue professionnelle de volleyball en Amérique du Nord?
Je pense que ça serait faisable. Est-ce qu'on serait capable, on parle pour parler, là, de...
Ouais.
D'à côté le niveau de l'Europe, peut-être pas, mais on serait capable d'avoir quand même du bon niveau. Puis, tu sais, ça continuerait d'évoluer. Ça serait des hommes encore, là. Mettons, tu finis l'année à 24-25, puis que dans ta ligue, c'est du monde de 25 à 30 ans, là. Mais tu jouerais encore contre des hommes, puis c'est sûr qu'il y aurait du bon calibre.
Ouais.
Ouais. Puis ça éviterait surtout à tes joueurs ça évite de perdre tes joueurs, dans le fond, qui iraient en Europe. Tu pourrais garder ton monde au Canada. C'est sûr que.
Puis moi, j'ai l'impression aussi que ce que ça ferait, c'est que tout simplement, les jeunes. Ben, pourrait voir ce sport-là, puis il prend le goût, dans le fond, de vouloir l'essayer. Puis probablement qu'il y aurait plus de jeunes qui s'inscriraient au volleyball puis qui essaieraient ce sport-là. Je pense que ça pourrait avoir vraiment cet impact-là qui serait non négligeable.
Oui, puis peut-être des impacts du tout d'élever le calibre peut-être universitaire, peut-être d'injecter des fonds. Tu sais, ça entraînerait le monde à avoir plus de joueurs universitaires pour faire vivre justement cette ligue-là.
Sur ce, merci Nicolas d'avoir pris du temps avec nous. Nous, on va faire une petite pause publicitaire puis on va enchaîner avec un petit topo sur Ismaël Diouf qui a reçu une bonne nouvelle dernièrement. Mais encore une fois, merci Nicolas. J'espère que tu as eu du fun. Nous, on a eu du fun à te recevoir.
Merci beaucoup, gars. C'était vraiment
merci.
Sur ce, on fait une petite pause.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Frappé solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Il ne paye pas le prix!
Le mental!
Pour vivre la folie d'ici, branchez-vous à Conduite Antisportive les lundis de 15h30 à 16h30 afin de suivre l'actualité du Rouge et Or et du sport universitaire.
Incroyable! Renversant! Super!
Et pour ne rien manquer dans le monde du sport professionnel, c'est les vendredis de 15h à 16h que ça se passe.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Conduite Antisportive, c'est un rendez-vous les lundis et vendredis.
Sur les ondes de Chiz 94.3.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
On parle de changement climatique, mais parle-t-on assez de justice climatique? Dans la mire climatique, c'est trois passionnés de politique qui sont là pour décortiquer avec vous l'enjeu de notre génération sous un autre angle. Parce que la transition énergétique, c'est bien plus qu'une question de réduction des GES, c'est aussi une question de justice. Écoutez Dans la mire climatique, un mercredi sur deux, de 11h30 à midi, sur les ondes de Chiz 94.3.
Bienvenue à l'antenne de Chiz 94.3. Vous écoutez la fin d'émission de Conduite Antisportive. On vient de recevoir Nicolas Fortin en entrevue pour nous parler de sa carrière de volleyball. Et on va faire quelques minutes sur Ismaël Diouf, qu'on a reçu comme premier invité. Ben, ça dépend si on compte Luc qui est venu nous voir, là, mais premier athlète du Rouge et Or qu'on a reçu en entrevue. A été sélectionné premier au total du repêchage de la LECB, donc Ligue Élite Canadienne de Basketball, par nul autre que l'Alliance de Montréal, l'équipe locale. Les gars, on s'en était parlé un peu là, quand on l'a reçu en entrevue. J'y avais posé une question sur l'Alliance. Vous l'avez tous vu en ondes, malheureusement, puisque c'est de la radio, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais ici en studio, il y avait un gros sourire.
Vraiment, on l'avait vu sourire comme un enfant là, assez jeune qui vient d'en sortir des bonbons,
biscuits,
surprise,
là, ouais,
je sais pas. Il y avait un petit sourire là, un peu coquin, je dirais. Je sais pas comment le décrire, mais on s'est tout...
on l'a pas trop questionné.
Exactement.
Il nous a dit qu'il y avait eu, je pense, des discussions. Il avait pas trop voulu rentrer dans les détails. Mais
là, ensuite, on s'était reparlé. Entre nous, on était comme, hey, pensez-vous que l'Alliance pourrait aller le repêcher? Puis finalement, ben voilà, l'Alliance qui, avec leur tout premier choix, vont chercher Ismaël Diouf. Alors, j'ai hâte de le voir évoluer avec l'Alliance. Peut-être pas tout de suite, je sais pas à quel moment.
Ouais, je me suis renseigné. Les joueurs qui ont été repêchés peuvent jouer. C'est une saison estivale, la LECB. Donc, ils peuvent jouer avec leur équipe respective et retourner dans les rangs universitaires par la suite.
Ouais, mais à voir s'il va se trouver un poste dès cet été.
Ouais, t'es assez jeune. C'est quand même, tu sais, c'est du bon calibre, la LECB. Donc, on va voir le temps de jeu qu'il va avoir, ou s'il va avoir du temps de jeu, mais ça va être une belle expérience professionnelle.
Clairement, justement, que cette expérience qu'il va aller chercher là, ben, ça va l'aider pour la suite des choses, ben, pour la prochaine saison, puis même pour élever ensuite ses coéquipiers, élever le jeu d'un cran pour toute l'équipe. Je suis convaincu que le bagage va servir à tout le monde. Et puis, bon, la saison de l'Alliance qui commence le 23 mai, moi, j'ai vraiment hâte de suivre ça.
Ouais, puis ça va être une belle opportunité pour lui, puis pour plein d'autres Québécois. Là, je veux dire, c'est beau de voir justement cette équipe-là de l'Alliance ramener des Québécois. Je veux dire, un gars qu'on...
Ouais, trois choix repêchage, Québécois.
Québécois. Est-ce que je pense qu'Ismaël Diouf était un peu le consensus pour ce choix-là là, pour Montréal, et d'avoir justement un gars comme ça qui va aller pouvoir se donner un peu d'expérience, c'est ça, avec Aydara de l'UQAM qui est très pêcheur de deuxième ronde, même un gars que je pense qui pourrait possiblement être un excellent atout pour l'Alliance, peu importe ce sera quand, si jamais il joue cette année là. Mais Ronaldo Robinson, qui est un excellent joueur, qui joue à Dawson, qui a été joueur par excellence à Dawson en division 1 en 2022, je pense, là, qui est allé, qui s'est exilé en Colombie-Britannique pour jouer avec Victoria. On l'avait vu ici à Québec, mais c'est
joueur du match en plus, ouais, contre le Rouge et Or.
Exact, joueur du match,
ouais,
de son côté.
Ouais, de son côté.
Donc vraiment une belle addition pour lui là, de d'avoir justement cette pour cette équipe-là, d'avoir trois Québécois, trois gars qui ont vraiment montré un niveau intéressant dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et Ismaël Dieu, ben tu sais, l'ascension est incroyable là, de le voir justement passer de division 2 à pas trop savoir s'il allait avoir un peu de basket universitaire pour lui, et finalement à devenir partant, à devenir joueur dans l'équipe des recrues l'année passée. Encore là, tu sais, ça savait pas trop ce qui allait arriver cette année. Joue une bonne année, mais sans plus.
Avec des hauts et des bas.
Ouais, des hauts et des bas. Mm-hmm. Comme ça, c'est le bras qu'il avait laissé sur la touche pendant quelques semaines. Et là, revient finalement au championnat canadien avec une performance incroyable. Tu sais, si Ismaël a pas cette performance-là dans ces matchs-là, pas sûr qu'il est repêché aussi haut. Donc, mm-hmm. L'ascension qu'il a eue, je pense que c'est peut-être ça que l'Alliance a vu chez lui. C'est peut-être le plafond qui semble un peu pas être présent pour lui là, on a l'impression que le ciel est sa limite là,
tout devient possible
là, avec, ouais, comment il s'améliore de match en match, de jour en jour, d'heure en heure. Ben ça peut vraiment être une acquisition de taille pour lui et peut-être lui donner une opportunité de jouer en Europe un de ses quatre là, dans les prochaines années.
Ouais, je pense que c'est tout à fait possible puis vraiment lucide, puis même lui tu nous l'avais dit au bout du compte, c'est ça son objectif, puis c'est clair, il mentionne il veut jouer professionnel, puis en étant repêché par l'Alliance, clairement que c'est encore là, ben un step de plus, désolé l'anglicisme, mais c'est le chemin à suivre pour se rendre en Europe.
Puis il y a moyen de faire les deux aussi, puisque c'est une saison estivale. Il y a, ouais, plusieurs joueurs, ouais, qui jouent l'été ici à Montréal ou dans les autres équipes de la Ligue, et l'hiver vont en Europe pour jouer professionnel. Donc là, lui, l'hiver va jouer à Laval, mais au terme de sa carrière universitaire, pourrait combiner soit à temps plein en Europe chez les pros, mais pourrait aussi faire les deux, soit quelques années ou pour le reste de sa carrière indépendamment.
T'sais, moi, j'ai l'impression que le risque avec ça, c'est peut-être les blessures. T'sais, on le sait que dans une ligue comme ça, ça joue physique, c'est des grands messieurs, des gros messieurs, ça peut jouer dur. Cependant, j'en ai parlé avec un de mes amis à moi qui est étudiant à la maîtrise en kinésiologie, puis il connaît bien son préparateur physique, puis lui, il dit « je suis aucunement inquiet de tout ça, il est tellement bien préparé physiquement que les risques de blessures sont pas si élevés que ça. » Puis, tu sais, de toute façon, qu'il joue dans une ligue ou pas, il va jouer au basket cet été, il va se préparer. Fait que ça va tout simplement y apporter plus de bagages. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense.
Exact. Et tu sais, ça va être vraiment une belle expérience. Et de pouvoir le revoir à Laval encore une fois, c'est ça qui est intéressant, là, c'est qu'on va pouvoir le revoir jouer, voir, ouais, son amélioration. On verra, tu sais, ça va être une année un peu spéciale là pour le joueur. On verra qui sera de retour, qui sera pas de retour. Est-ce qu'il aura pour avoir un impact aussi grand pour la prochaine saison? Ce serait vraiment intéressant de pouvoir peut-être amener des gens avec ce gars-là là, tu sais, c'est un choix exceptionnel, mais en plus de ça, tu sais, de le revoir à Laval, ben ça peut ramener des gens à venir acheter des billets, à venir voir cette équipe-là. S'il peut avoir une saison aussi dominante qu'il a eu pendant la championne canadienne, ben, ça va devenir une tête d'affiche, là, un joueur qui va à lui seul peut-être amener des spectateurs au stade.
Vraiment, puis même pour l'Alliance, là, j'ai l'impression qu'aller chercher des Québécois comme ça, ça peut probablement aider à davantage remplir le stade. Puis j'ai l'impression, je sais pas si vous me suivez là-dessus, mais j'ai l'impression que l'Alliance fait un peu comme les Alouettes de Montréal. On bâtit notre futur, ouais, sur plusieurs Québécois, puis pour les Alouettes, ben ça a porté fruit cette année. Mmh. Alors espérons que ça porte fruit pour l'Alliance.
Ben exactement, ça porte déjà fruit. Ça va être leur troisième saison cet, ouais, été. On menait le circuit pour le nombre de personnes au stade, uh-huh, leurs deux années dans le circuit. Donc tu sais, il y a du monde qui vont à l'auditorium de Verdun. C'est une équipe qui est en santé malgré tout. Oui, je pense que les deux années ont fini dernier de la Ligue, mais menaient pour l'assistance. Donc,
puis c'est probablement pour ça que cette année, ben c'est l'Alliance de Montréal qui va recevoir le, ouais, championnat 2024. Ouais. Alors le championnat canadien de la Ligue, ben ça va être à Montréal que ça se passe. Là, ça...
Il y avait aussi le match des Étoiles qui était ici à Québec au printemps, à l'automne. C'était peut-être à l'hiver, je pense. Ou en tout cas, mm-hmm, qui était au centre Vidéotron. Donc vraiment, le basket... marche au Québec. Ouais. L'Alliance, c'est une équipe jeune. T'sais, tranquillement, là, prend ses repères dans la LECB. Mais les partisans sont au rendez-vous. Tu l'as dit, ça va être le championnat qui va être là. Donc, une place assurée en série, un peu comme au championnat canadien à Québec. Là. Écoute, on va voir ça va être quoi leur saison, mais pourrait refaire le même coup que le Rouge et Or a fait aux autres équipes canadiennes. Mm-hmm. T'sais, s'ils connaissent une autre saison difficile, mais réussissent à se glisser, je pense qu'avec l'apport de la foule, ils pourraient faire des surprises. on l'a dit, Ismaël Diouf, une expérience pro. Après ça, revenir en universitaire, où est-ce qu'il va avoir du temps de jeu, jouer contre des joueurs moins bons, pouvoir pratiquer, mettre en pratique ce qu'il a vu avec l'Alliance. Ça va être à suivre. Je pense aussi qu'une des raisons pourquoi il a été sélectionné au premier rang, il est peut-être un peu plus jeune aussi que les autres joueurs sélectionnés. Je pense que l'Alliance voit un grand potentiel en ce joueur-là. Je sais pas, est-ce que, au championnat canadien, il a été le meilleur joueur sur le terrain et de loin. Ouais. Mais est-ce que c'est le meilleur joueur universitaire canadien en ce moment? Peut-être pas, mais il est juste seulement à sa deuxième année. Puis ça, comme Victor t'a dit, pour reprendre l'expression anglaise, le ciel est la limite. Là.
Ouais, mais puis là, c'est moi qui ai peut-être moins les connaissances, mais est-ce que cette ligue-là est au niveau ou plus grande que l'autre que. Tu sais, c'est quoi l'autre ligue? La
TBL.
Ouais.
Oui, c'est supérieur à la TBL, qui a une équipe, la Toundra de Montréal. L'enthousiasme est moins là aussi pour cette équipe-là. Je pense que. Je sais pas. T'sais, je ne suis pas un expert complètement dans les deux équipes, mais l'Alliance semble rejoindre son public de façon nettement supérieure. Puis je pense que le produit aussi sur le terrain, c'est pas. T'sais, il n'y a pas une énorme différence, mais je pense que c'est quand même du meilleur basket. Okay.
Mm-hmm. Ouais, j'ai aussi l'impression que l'Alliance est supérieure. Ouais.
Sur ce, Emery, tu voulais nous parler, nous glisser quelques mots.
Oui, parce que dans le fond, présentement, là, on est un peu dans un creux là, en termes de sport universitaire, parce que là, toutes les saisons d'hiver viennent de se terminer là, il y a à peine de ça quelques semaines. Alors, tu sais, c'est sûr qu'il y a un peu moins de nouvelles. T'sais, les nouvelles qu'on reçoit justement, c'est par exemple Ismaël qui est repêché. Prochainement, on va probablement parler de football. Mais tu sais, d'ici là, il se passe un peu moins de contenu, disons, sportif pur et dur. Cependant, il y a quelques jours, l'Université Laval, avec la Fondation du Rouge et Or, qui a remis, grâce à 38 donateurs, 265 000 $ en bourse à près de 140 étudiants athlètes. Alors ça peut vraiment faire la différence pour les étudiants, les étudiantes du Rouge et Or de l'Université Laval, parce qu'on le sait, ça travaille fort sur le terrain, en dehors du terrain. C'est justement Nicolas qui est à la qui a terminé sa maîtrise à temps plein, à matin d'être étudiant, puis il parlait justement de la préparation qu'il y a à avoir avant des matchs. T'sais, c'est extrêmement demandant pour les étudiants. Alors d'avoir un coup de pouce financier, clairement que ça l'aide. Alors ça, c'est une bonne nouvelle qu'on a. La bonne nouvelle de la semaine, la bonne nouvelle économique de la semaine, les bonnes bourses qu'on a remis aux étudiants et étudiantes athlètes du Rouge et Or.
Ouais, comme tu le disais, on est dans une espèce de saison morte. Ouais. Mais comme on a entendu pour plusieurs athlètes, c'est une saison pour se remettre en forme, en quelque sorte, là, se remettre dans des bonnes conditions physiques. Et au final, la saison estivale est peut-être moins intéressante à suivre pour le côté universitaire, mais ça met la table un peu pour le reste de la saison de l'automne. Ouais. Qu'on le veuille ou non, ça arrive quand même vite, là, dans le sens que les camps d'entraînement pour ces équipes-là, ça va commencer en août. Le premier match où genre foot, c'est le 24 août. En étant le 15 avril, là, on est à quelques 4-5 mois là, du premier match. Donc, durant l'été, je sais que le Rougeard va tenir quelques entraînements aussi estivaux avec les recrues qui sont présentes. Après ça, tu as le camp d'entraînement qui va arriver par la suite. Donc,
est-ce qu'ils font encore des camps genre en Floride?
Non, le camp en Floride a été un peu boycotté parce que les autres équipes, en tout cas, je sais pas si c'est la raison, mais les autres équipes étaient un peu frustrées de voir que le Rougeard pouvait le faire. Pas eux.
Ça fait assez professionnel d'aller faire un camp d'entraînement en Floride.
Exact. Donc, je sais pas exactement c'est quoi la raison, mais je pense que ça a un peu une question d'équité. Puis au final, c'est vrai que côté équité, de voir une équipe passer en Floride s'entraîner dans une condition parfaite, c'est peut-être pas l'idéal. Mais quand même, on a des belles installations à Québec, là, dans le sens qu'on a le stade TELUS à l'intérieur où est-ce que l'équipe peut jouer ou peut pas jouer, mais peut simuler des matchs, pratiquer, peu importe. Mm-hmm. Et on a même un stade extérieur qui va être en pleine capacité, en fait, qui va pouvoir être utilisé à tous ses moyens par rapport à l'année passée parce qu'on est en train de faire le terrain. À voir comment la piste d'athlétisme sera, quand la piste d'athlétisme sera créée ou en tout cas mise sur ce terrain-là, à côté du terrain. Voir comment ça va prendre justement pour laisser les joueurs jouer, en tout cas laisser les athlètes s'entraîner. Et voilà. Donc, ça sera vraiment, vraiment intéressant de voir ça. Et tu sais, c'est ça pour tous les sports. Le soccer va repartir rapidement. Puis, dans les prochaines semaines, oui, on a le calendrier du football, mais on va voir les calendriers des autres sports, du rugby, du soccer. Mm-hmm. Donc, ça va vous donner une idée un peu à tout le monde de savoir à peu près quand est-ce que les saisons vont commencer, quand est-ce que les saisons vont terminer. On sait qu'à Laval, l'année prochaine, il ne devrait pas avoir beaucoup de championnats canadiens. Je me demande s'il y en a, je suis pas sûr qu'il va en avoir un, mais ça permettra justement aux équipes de se qualifier avec les championnats québécois. Ça va devenir encore plus important d'être présent pendant les championnats québécois pour les athlètes et pour les spectateurs.
Exactement. Puis, on dit que c'est la saison morte, mais en vrai, c'est vraiment pas mort, là, tu viens de le dire. Ouais. Les équipes se préparent, remettent la table, puis même dans certains sports, par exemple l'athlétisme, les étudiants sont très actifs durant l'été. Il y a plusieurs championnats. Ben, il y a notamment les Olympiques, peut-être pour Jasmin Desgagné, pour Audrey Leduc. Alors, non, clairement que la saison n'est pas morte. Puis dans les prochaines semaines, justement, il y a des nouvelles annonces qui vont suivre, les calendriers qui vont sortir. Ouais. Alors, ben, évidemment, soyez à l'écoute ici à Chis 94.3, dès lundi 15h30 à 16h30. On va vous en parler. Ouais. On est là pour vous livrer les nouvelles du sport.
On parlait justement de Jean-Simon, mais Audrey Leduc, dans les dernières semaines, là, continue à briller. Donc, on verra si on peut peut-être avoir une deuxième athlète du Rougeur qui se présente aux Olympiques. Donc, clairement, il va y avoir des choses à suivre. Là, juste les Olympiques en tant que tel, ça va être un événement en soi à suivre pour tout le monde de Laval, là, d'avoir un athlète comme ça, du Rougeur, se présenter comme ça. Puis même un autre qui... Je le connais pas assez ses aspirations, mais Charles Fulbert-Thibouteau avait déjà fait les Olympiques, à voir s'il pourrait peut-être se glisser dans une sélection olympique. On verra.
C'est son but, clairement, c'est son but.
Exact. À voir s'il va réussir à le faire. Mais ça va être intéressant, clairement, d'aller voir ça, de voir peut-être ces trois athlètes-là qui pourraient continuer à briller au Québec. Un autre aspect important, j'en avais parlé avec Charles en fin de semaine, mais le botteur du Rougeard de football, Vincent Blanchard, qui est dans des camps avec aux États-Unis pour essayer de se faire repêcher ou en tout cas se faire signer par une équipe NFL, possiblement. Un des grands Manitou un peu du botté de placement au football américain qui est avec lui pour essayer de le faire graver les échelons, avait gagné un espèce de showcase, là, un espèce de concours avec d'autres botteurs américains, avait réussi à botter de 60 verges, quelque chose comme ça.
Wow.
Ce qui est absolument incroyable.
Vraiment,
et on parlait de lui comme un des botteurs peut-être qui pourrait, en fait, un des meilleurs botteurs toutes catégories confondues au Canada et aux États-Unis dans sa catégorie d'âge, là, donc universitaire. Donc, un des 4-5 meilleurs botteurs à ce niveau-là. Donc, on verra s'il pourra peut-être avoir une invitation dans les prochaines semaines dans un camp pour la NFL ou en tout cas, est-ce que ça aura peut-être aussi une invitation pour des camps de la Ligue canadienne si ça marche pas. Mais ça va être vraiment une belle opportunité pour lui de voir justement s'il peut continuer sur la lignée des Mathieu Betts, des Anthony Auclair, des joueurs comme ça qui ont vu du temps de jeu, ben en tout cas, qui ont vu les installations en tout cas des équipes professionnelles.
Puis souvent, j'ai l'impression que le rôle de botteur, c'est un peu un rôle qui est négligé, mais... Il est extrêmement important. Oui, là, parlez-en aux Bills de Buffalo, ils vont vous le dire.
Oui, parlez-en juste aux Rougeurs. On a vu tellement... Vincent Blanchard a tellement réussi des bottés importants.
Vraiment,
Boris juste... Bédé, on a été gâtés côté botteur à Laval.
Christophe Milo, il y a des gars comme ça qui ont fait du gros travail. Là, c'est le prochain qui va peut-être mettre son nom sur la liste. Il y en a deux là, qui sont à Laval. Donc, Philippe Forteza qui a vu du temps de jeu comme joueur de ligne défensive. Donc, oui. Un joueur de ligne défensive qui se retrouve comme botteur. Mais c'est sa qualité première, c'est d'être botteur. Mais il est bâti comme un joueur défensif aussi, donc peut jouer défensivement, un athlète hors pair, mais un autre gars qui pourrait peut-être devenir le botteur de prédilection du Rougeur, ben Émile Choquette, qui va se retrouver probablement avec le poste, si jamais tout va bien pour lui, ça devrait être le botteur de prédilection pour les prochaines années avec Laval, mais c'est ça, on a vu le Rougeur avoir d'excellents botteurs, et dans des matchs serrés contre les Carabins, t'as toujours besoin d'avoir un bon botteur. On l'a vu avec un rouge au final, là, je veux dire, oui, il rate le botté, Vincent Blanchard, mais je veux dire, le fait que réussisse à placer ce ballon-là assez loin pour avoir ce rouge-là, ben ça a eu un impact, et même dans les matchs de la Coupe Vanier, avait réussi, je pense, le record pour la Coupe Vanier en série, le plus long botté en série pour lui. Donc, il y a vraiment des beaux accomplissements, puis ça montre l'importance d'un poste comme celui-là.
Exact. Comme tu as dit, Emery, ici, à Continent Sportif, on se démène pour trouver les histoires du Rougeard et du sport universitaire. C'est moins... Des grandes histoires, ben pas des grandes histoires, mais comme vous l'avez dit, c'est plus de la préparation en ce moment. Ouais. Mais ça va être à suivre. Audrey Leduc, là, qui est la deuxième femme la plus vite au monde sur le 100 mètres. Je veux dire, c'est absolument exceptionnel. Pas encore qualifiée pour les Olympiques, t'sais, officiellement, mais ça devrait se faire bientôt. Ouais. Même chose pour Jean-Simon Desgagné.
Ouais, exact.
Nous, pendant les Olympiques, fin de l'été, on sera pas en onde, mais suivez ça, ça va être super intéressant. Il va y avoir plusieurs athlètes du Rougeard. Victor, t'as un mot?
J'allais dire, justement, il y a une autre aspect important, tu sais, on en a parlé dans les dernières émissions, mais le repêchage de la Ligue canadienne, savoir qui sera repêché, mais aussi le fait de les joueurs qui seront pas repêchés ou qui seront repêchés tard, ben durant l'été avec les camps, on verra s'ils vont revenir à Laval ou non. Tu sais, des joueurs comme ça qui, dépendamment de où sont repêchés, pourraient revoir de l'éligibilité avec le Rouge et Or. Donc, ce sera aussi un aspect important à suivre. Mais clairement, je pense que la priorité numéro un pour tout résident de Québec, ce sera de suivre Jean-Simon Desgagné, il voudrait le dire aux Olympiques si elle réussit à s'y rendre. Mais c'est vraiment ce qui va être le plus important et le plus incroyable, la plus belle histoire, je pense, là, pour les gens de Québec.
Les gens de Québec, mais du Québec, ouais, de façon générale.
Exact. Non, Saint-Brie puis l'Abitibi, on vous oublie. Non, donc vous l'aurez compris, ça va être extrêmement important de nous écouter pour nos deux dernières émissions de la saison. Notre prochaine émission, c'est lundi prochain à 15h30. Sur ce, bonne soirée.
Ciao!